Voilà. Donc Camille Moreau, donc, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous pour cette journée, et donc qui est doctorante en esthétique et sciences de l'art à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc qui va bientôt soutenir sa thèse, d'après ce que j'ai appris hier, et dont les recherches portent sur les correspondances entre la réception esthétique et l'érotisme, dans le domaine surtout de la littérature. Sa thèse s'intitule « La chair du texte, l'écrit comme adjuvant, vecteur ou constituant de l'expérience érotique, au regard des exemples de la littérature française depuis 1950 ». Et elle a publié un certain nombre, quelques articles en 2016 dans la revue Féroce, justement La chair des mots, et puis aussi un article dans la revue des sciences sociales de l'Université de Strasbourg, publié ses amours, fonction de l'écriture sur l'intime chez deux couples d'auteurs contemporains, ainsi qu'un article en 2018 pour la revue Trans de littérature comparée sur l'érotisme de la bibliothèque. Voilà, elle enseigne par ailleurs depuis 2014 la littérature érotique à l'Institut National de Formation des Libraires à Montreuil. Et donc voilà, je te cède la parole, Camille, pour ta conférence. Merci encore.
sont-ils des murs ou des portes entre soi et l'expérience? On m'entend plus, est-ce qu'il faut que je coupe la caméra? Bon, apparemment on m'entend quand même, donc je vais continuer encore. Alors, où se trouve le corps dans le rapport au livre, et plus spécifiquement le rapport au livre érotique? Alors, au sujet de la terminologie, je vais durant cette conférence utiliser le terme d'érographie. Donc j'emprunte le terme à Gaëtan Brulotte, qui est un linguiste renommé, qui est spécialiste du langage érotique, qui a été l'élève de Roland Barthes et qui, dans œuvre de son ouvrage « Œuvre de chair, figure du discours érotique », désigne par érographie toute littérature qui a pour sujet principal la sexualité. Alors bien sûr, je préfère ce terme à celui de littérature érotique car il élude les problèmes de genre littéraire en rassemblant sous un même terme des ouvrages de la culture populaire, de la culture dite légitime, des ouvrages dont la désignation sous le terme littérature érotique n'est pas parfaitement claire, etc. Donc ces distinctions existent, hein, elles sont intéressantes à analyser et à explorer, mais ce n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Donc la question que je veux poser aujourd'hui est la suivante: qu'est-ce que la lecture d'érographie peut apporter à la connaissance d'autrui et à l'expérience érotique pratique en elle-même? Donc pour explorer cette question, j'aimerais tout d'abord revenir sur la notion de l'érographie comme lieu du fantasme absolu, lieu cathartique par excellence, où tout ce qui n'est justement pas possible dans l'expérience se réalise enfin. Donc pour cela, on évoquera Jean-Luc Marion notamment. Et ensuite, en nous intéressant un peu plus à ce qui se passe chez le récepteur dans l'acte de lecture lui-même, nous verrons que cette distinction fantasme-réalité n'est pas aussi binaire que ça. Car ce qui est en jeu dans la lecture érographique, c'est avant tout l'intersubjectivité qui s'exprime à plusieurs niveaux entre le moment de l'écriture et celui de la lecture, comme nous allons ensuite le découvrir ensemble. Alors tout ceci nous mènera à envisager la lecture d'érographie non plus comme séparée de l'expérience de plusieurs manières, mais bien plutôt comme un outil de liaison vers l'expérience, une sorte de dispositif phénoménologique par excellence. Et on parlera de Umberto Eco et de Ricoeur à ce moment-là. Alors, en ce qui concerne la méthode que je vais employer, quelques mots. Dans les romans, le passage de la lecture à l'expérience est particulièrement représenté. Bon, c'est le cas de Madame Bovary, mais pas seulement. Ce schéma est tellement répété qu'il en devient un topos, voire un cliché de la littérature érotique. Voilà pourquoi ma communication s'appuiera sur l'érographie, en citant de nombreux passages de livres érographiques. Bon, j'userai aussi bien en tant qu'objet d'étude qu'en tant que spécimen d'illustration de l'action humaine. Alors bien sûr, je suis consciente que ce qui est dit dans les livres est différent de la réalité, c'est même le point de départ de cette communication, mais nous verrons ensemble à quel point ils peuvent aussi nous enseigner sur autrui et sur nous-mêmes. Tout ceci prendra sens à l'issue de ma présentation, du moins, je l'espère. Alors je vais commencer avec ma première partie, que j'ai intitulée « Catharsis, livre avec le égal barré et monde », donc le livre est différent du monde. Le fantasme et la pratique érotique sont séparés par l'infranchissable mur de la matérialité, donc ce que je vous disais en introduction. La réalité sexuelle, elle est pleine d'obstacles. Il faut compter avec les tabous, les malentendus, les milieux sociaux, religieux et culturels, la loi, les interdictions tacites, les interdictions explicites. Nous sommes assez empêchés dans l'expérience érotique. En revanche, comme le dit justement Ricoeur dans le tome 3 de Temps et Récit, je cite: seule la fiction, parce qu'elle reste fiction lors même qu'elle projette et dépeint l'expérience, peut se permettre un peu d'ébriété. Fin de citation. Bon, triste constat, le tableau que je vous présente n'est pas très amusant, mais il est difficile pour le moment de s'insurger contre cette idée. Alors, cependant, l'expérience, elle n'est pas non plus totalement étrangère à l'érographie, au contraire. Bien sûr, la description des ébats dans l'érographie, elle doit être réaliste. Il y a un certain ancrage dans la réalité, mais celui-ci n'est que partiel. Ou alors plutôt, la description s'organise différemment, selon la théorie de la lecture de Wolfgang Iser. Dans son ouvrage qui s'appelle « L'appel du texte », il analyse ce processus ainsi, donc je cite: ceci explique pourquoi nous reconnaissons dans la littérature autant d'éléments qui participent aussi de notre expérience quotidienne. Ces éléments sont tout simplement agencés différemment, autrement dit, ils constituent un monde qui nous semble familier mais sous une forme qui s'écarte de nos habitudes. C'est pourquoi l'intention du texte littéraire n'est absolument pas semblable à notre expérience. Fin de citation. Donc il y a donc une différence fondamentale, ou alors plutôt une nuance de structure entre le monde présenté dans les livres et le monde réel. Ils ne sont pas totalement étrangers l'un à l'autre, mais ils sont dissemblables. Donc comme le dirait Umberto Eco dans L'œuvre ouverte, le texte fictionnel ressemble au monde dans la mesure où il ébauche un monde concurrent. Donc il s'agit bien d'une logique d'opposition, même si l'ancrage est la réalité. Donc l'érographie présente un érotisme qui n'est pas celui de la réalité, qui est un érotisme magnifié, débarrassé de ses pudeurs et de ses gênes du monde réel. Rappelons les expériences décevantes de l'érotisme qui sont à la fois décrites par Michel Henry et Jean-Luc Marion. Donc dans Incarnation, Michel Henry qui dit, je cite, « Le désir échoue à atteindre le plaisir de l'autre là où il s'atteint lui-même. » Et Jean-Luc Marion dit de l'érotisation, je fais donc l'expérience la plus extrême et la plus décevante en même temps. J'y reçois ma chair à son maximum, mais elle m'échappe à l'instant même où, un instant plus tard, j'allais l'atteindre. Fin de citation. Donc dans l'érographie, à l'inverse, la notion de fiction permet de dépasser tout ça et de mettre de côté tout cet appareil de restriction pour faire vivre au personnage une sexualité libérée de tout, qui est extrême et parfaite. Dans l'érographie, c'est donc un éros donc parfait qui est représenté, sans les failles, sans les bévues qui me poussent à manquer l'autre. L'érographie, par exemple, représente des orgasmes fabuleux, des accords parfaits, des moments sans imperfection ni ratés, des amants qui s'atteignent l'un l'autre à chaque fois qu'ils se rencontrent. Pour un peu, on viendrait à penser qu'il suffirait de lire, puisque la réalité ne sera jamais à la hauteur du fantasme. Pour peu qu'on ait déjà fait l'expérience de l'érotisme, on devrait alors ne pas vouloir chercher l'expérience après avoir lu, parce qu'on serait forcément déçu, donc comme Emma Bovary l'a prouvé. La lecture de textes érotiques, donc, où les fantasmes peuvent s'exprimer à un degré que l'expérience réelle ne pourrait supporter, pourrait donc se résumer à une simple fonction de catharsis ou de sublimation. Alors, bien sûr, pourtant, nous savons tous que ce n'est pas forcément le cas. La littérature érotique elle-même, elle est pleine de témoignages d'amants qui sont poussés à l'action par la lecture de textes licencieux. Donc à titre d'exemple, il y en a plein, mais je vous en ai choisi un qui est extrait du Jardin de l'Ogre de Leïla Slimani. Donc je vous lis l'extrait. Un après-midi, elle avait trouvé une édition de l'insoutenable légèreté de l'être qui devait appartenir au propriétaire. Tes parents ne lisaient pas ce genre de livre. Ses parents ne lisaient pas de livres du tout. Elle avait tourné les pages au hasard et était tombée sur une scène qui l'avait troublée aux larmes. Les mots résonnaient jusque dans son ventre, un courant électrique la parcourait à chaque phrase, elle serrait la mâchoire, contractait son sexe. Pour la première fois de sa vie, elle avait eu envie de se toucher. Voilà, fin de citation. Donc on voit donc à travers cet extrait que le corps lui-même est affecté par la lecture, au point que l'héroïne a envie de passer à l'action, même s'il s'agit d'auto-érotisme. D'ailleurs, c'est assez fréquent dans la littérature érotique, dans l'érographie, de voir ce genre de passage. D'ailleurs, un des surnoms de l'érographie, c'est la littérature qui ne se lit que d'une main, donc on comprend assez bien pourquoi. Mais ce n'est pas le seul exemple, hein. Voyons donc ce qu'en dit Gaëtan Brulotte, que j'ai cité tout à l'heure et qui a écrit un très beau livre sur la littérature érotique. Je cite, l'érographie campe aussi souvent un personnage qui est un lecteur intradiégétique et qui est perturbé par une lecture coquine. Fin de citation. Donc au-delà d'être perturbé, qui est somme toute peut-être le but de toute la lecture érographique, de cet appareil d'exposition des fantasmes, cette perturbation, elle ouvre une porte vers une sorte de désir d'agir. Donc je cite encore Gaëtan Brulotte, le livre lascif accompagne naturellement les actes sexuels. C'est même un topos de l'érographie que de représenter des personnages en train d'imiter ou de prolonger les gestes et les postures d'autres personnages, que ce soit par l'entremise de la lecture, le biais narratif d'autres expériences. Fin de citation. Alors, il ne s'agit pas seulement, pour moi, d'imiter. Donc, auquel cas, tous les livres érotiques ne seraient que des manuels. Donc, or, c'est pas le cas. Parfois, la lecture se limite aux premières pages et tant par empressement, le livre tombe des mains et alors cet apprentissage de l'art de lire devient plutôt un apprentissage de l'art de ne pas lire. Il s'agit aussi d'un instrument, pour moi, d'introspection qui permet d'exercer son désir sur des objets imaginaires. Donc, je cite encore une fois Gaëtan Brulotte là-dessus. Mais l'érographe se sert également des écrits non pas seulement comme une incitation à recopier le contenu tel quel dans l'agir, mais encore plus largement comme instrument de promotion des fantasmes. Donc on est toujours là dans l'idée catharsis, mais pas seulement. Donc, Gaëtan Brulotte poursuit sa réflexion de cette manière, je cite, « La lecture n'y est plus une consommation passive et devient vite mise en acte simultanée ou ultérieure. L'incipit suffit presque pour que, sur la lancée, on poursuive le livre, porté par le désir et la rêverie. Dans l'esprit de l'érographe, toute lecture érotique est érotique ou vient à s'érotiser. » Fin de citation. Donc le déroulé des expériences du livre importe peu, en fait. Ce qu'ils sont, c'est surtout une impulsion vers l'expérience de ses propres désirs en tant que lecteur. Alors ainsi, on est forcé de constater que les amants représentés dans l'érographie se jettent à corps perdu dans la pratique après ou pendant la lecture de passages érotiques. Alors serait-il possible que la lecture de textes érotiques, loin de nous éloigner de l'expérience, nous ouvre au contraire à l'altérité et nous pousse à vivre des expériences érotiques nous-mêmes ? Alors le livre est bien un monde concurrent de l'expérience, intrinsèquement différent, ça je ne veux pas le remettre en question, mais on voit cependant bien à ces exemples que malgré l'absolue séparation entre les deux, le texte est un tremplin vers l'expérience. Alors comment expliquer cela ? Par ce qui se passe, une des explications pour moi serait ce qui se passe lors de la lecture d'un texte et que le théoricien de la lecture Vincent Joux va appeler la régrédience, donc ce qui m'amène à ma deuxième partie que j'ai intitulée la régrédience. Alors, je vais un peu introduire le concept de la régrédience ici. Donc, en théorie de la lecture, la régrédience, elle est différente de la régrédience freudienne, c'est un terme qui vient de la psychanalyse. La régrédience, selon Freud, il l'a définie dans l'interprétation des rêves. En psychanalyse, c'est la capacité du rêveur à créer depuis son moi les images qui lui viennent en songe. Donc, en théorie de la lecture, elle a été définie par Vincent Joux dans son analyse comme le mécanisme qui permet au lecteur, non plus au rêveur, mais au lecteur de créer dans son esprit les images décrites par le langage, rapprochant ainsi la lecture du rêve. Voilà. Donc Vincent Joux, il explique la particularité de la lecture en comparaison avec les autres expériences esthétiques par cette prégnance de la régrédience, de l'internalité originale des images. Donc pour lui, le lecteur est véritablement semblable au lecteur, au rêveur, pardon. Donc je cite son livre qui s'appelle, d'ailleurs je vous ai pas dit le titre, qui s'appelle La lecture tout simplement. Alors, je cite, « La réponse se trouve dans les ressemblances entre l'état de lecture et le sommeil. » En termes d'énergie psychique, la situation du sujet qui lit s'apparente à celle du rêveur. Le lecteur, ainsi placé dans une situation économique proche de celle du rêveur, laisse ses excitations psychiques s'engager dans un début de régrédience. Donc, en conséquence, lorsque, par exemple, dans le cinéma, les images sont fournies par un tiers ou dans le théâtre, dans la lecture, elles sont fournies par le lecteur lui-même. Je cite encore Vincent Jouve. L'imaginaire particulier de chaque lecteur joue un tel rôle dans la représentation qu'on pourrait presque parler d'une présence du personnage à l'intérieur du lecteur. Cette sensation de consubstantialité entre le sujet lisant et le personnage représenté, aucune image optique ne pourra jamais la donner. Donc là, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que le texte est comme une abîme dans lequel peuvent s'engouffrer toutes les interprétations possibles, et c'est un objet sur lequel peuvent venir se poser toutes les représentations mentales imaginables. Or, comme nous le savons, donc l'érotisme est ce moment de la vie humaine qui est le plus sujet à la subjectivité. En effet, il n'y a pas une expérience semblable à une autre hein, dans le domaine de la sexualité, et l'exploration de cette diversité, c'est justement ce qui fait le sel de l'érotisme, voire sa caractérisation. Voilà. Or, justement, les vacances laissées dans le texte, tout ce qui est de l'ordre de l'interprétatif, les métaphores, les non-dits, l'implicite de certaines phrases, permettent au lecteur de mettre sa lecture en résonance avec sa pratique. La régrédience, dans l'érographie, elle est encore plus en jeu que dans toute autre lecture, parce qu'il n'y a pas une seule carrière sexuelle individuelle qui est semblable à une autre. Par conséquent, il n'y a pas un seul signifiant qui invoquera la même image mentale chez le lecteur. Dans son roman qui s'appelle Monsieur, le premier roman érotique inspiré de son histoire personnelle de Emma Baker, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a fait paraître récemment un livre qui s'appelle La Maison et qui raconte ses expériences dans une maison close de Berlin. Donc dans son premier roman qui s'appelle Monsieur, elle met justement en évidence cette mécanique dont je viens de vous parler. Donc je vais vous citer un petit extrait de ce roman. Je cite. Comment envisagent-ils, les lecteurs, tous ces mots ? Chatte, cul, queue, mouille, foutre, enculé. Quel impact ont ces mots dans le cerveau d'un homme de 45 ans qui a probablement, avec l'expérience, attaché un signifié derrière tous ces signifiants ? Qu'évoque le mot chatte ? À quelle chatte pense-t-il lorsqu'il effleure sans bruit ces six lettres noires ? Quelle femme aura corrompu à jamais de son souvenir, de son odeur, de sa présence, chaque page de la littérature érotique ? Fin de citation. Dans l'érographie, donc, le contrat de réalisme, il est moins fort que dans les autres formes de littérature parce que les fantasmes exprimés, ils peuvent se permettre de dépasser largement l'expérience réelle, donc nous l'avons vu. Donc, par ce biais même, le texte se rend désirable. C'est la puissance d'évocation qui, depuis l'auteur, en tant que sujet qui parle depuis son expérience, même s'il ne la met pas directement en scène, vient atteindre le lecteur qui, immédiatement, va faire correspondre sa propre expérience avec les scènes décrites, foncièrement différentes de celles issues du même fantasme, en fait. Donc, dans un deuxième temps, ces lectures, elles viendront s'incarner dans l'expérience en tant que mémoire de ces fantasmes. Donc, Gaëtan Brulotte, à force de constater que les érographes mettent en scène des lecteurs, il en vient à la conclusion suivante, c'est que l'omniprésence de la lecture n'est pas simplement un excitant pour les protagonistes des récits, mais finit aussi par infuser leur expérience par une sorte de pouvoir de suggestion qui viendrait, selon moi, là, de la régrédience même. Donc, je cite Gaëtan Brulotte, « L'érographe considère le livre comme une parole initiatrice et il sait bien que l'amour prend à travers les livres qu'il est d'abord de l'ordre des répliques, de l'imitation du miroir. » Fin de citation. Je vais prendre un peu d'eau avant de vous citer une deuxième partie de ce livre de Gaëtan Brulotte qui s'appelle « Œuvre de chair, figure du discours érotique ». Alors, une autre citation, toujours pour cette idée de la lecture qui est un passage vers l'expérience, je cite « La bibliophilie tient alors du discours amoureux, le libère devient l'alter, le corpus y est un corps, et la lecture un acte d'amour. » C'est assez intéressant de voir notamment le vocabulaire qu'on utilise dans le milieu du livre, notamment le corpus ou tout le vocabulaire de la reliure qui est très très corporel en fait. Je pourrais vous en parler plus tard à la fin de la présentation. Alors donc la régrédience, donc loin de créer un solipsisme, parce que ce qu'on pourrait croire c'est que si le lecteur crée des images depuis son propre soi, alors il est autosuffisant et l'expérience est bien loin et inutile. Alors au contraire, la régrédience elle permet d'atteindre à l'autre, comme nous allons voir maintenant, par un mécanisme très simple qui est celui tout simplement de l'intersubjectivité. Alors, on arrive à ma troisième partie que j'ai appelée intersubjectivité et qui va se séparer elle-même en deux parties parce qu'il n'y a pas seulement l'intersubjectivité entre l'auteur et le lecteur, il y a aussi celle entre les lecteurs eux-mêmes. Donc, je vais d'abord commencer par vous parler de celle entre l'auteur et le lecteur. Alors, certes, le lecteur, quand il déchiffre un texte, il est impliqué dans le processus de régrédience, mais il faut penser que l'auteur qui crée ce texte l'est aussi lorsqu'il écrit. Ces images donc, ne peuvent être les mêmes, les imaginaires, les subjectivités n'hésitant évidemment pas les mêmes, ou comme dirait Bataille dans l'érotisme, nous sommes des êtres discontinus. Mais l'opposition, en fait, n'est pas si franche. Puisqu'un auteur désire fatalement que son ouvrage soit lu et compris, ses émotions partagées par le plus grand nombre des lecteurs, il y a certainement une corrélation entre les images créées en régrédience chez le lecteur et celles créées par l'auteur dans le même mouvement. Là-dessus, j'aimerais convoquer un essai sur la lecture et l'écriture de la romancière et chercheuse en linguistique qui s'appelle Belinda Cannon, livre intitulé « L'écriture du désir ». Donc, je cite « La lecture, on le sait, demande une coopération entre le texte et le lecteur. Après que l'écrivain a transposé en mots ce qu'on pourrait appeler ses images mentales, reste pour le lecteur à convertir à rebours ces mots en images mentales. La représentation romanesque repose sur ce double processus de passage d'un imaginaire à un autre. » Fin de citation. Donc l'auteur se doit bien de bâtir ses images afin qu'elles soient potentiellement accessibles à tout lecteur. Donc on arrive ici à une des idées fondatrices de la théorie de la lecture moderne. Il s'agit du concept de lecteur implicite. Donc les concepts de lecteur implicite ou de lecteur modèle, le lecteur implicite c'est Wolfgang Iser qui l'a théorisé dans L'acte de lecture, le lecteur modèle c'est Umberto Eco dans Lector in Fabula. Alors, le concept donc de lecteur implicite dans la théorie moderne de la lecture détermine la manière de créer pour l'écrivain. Je rappelle qu'il s'agit de cette idée selon laquelle l'auteur, quand il écrit, le fait pour un lecteur fictif, un lecteur parfait selon ses critères et à qui il s'adresse. Donc, je vois dans cette idée, pour moi, la marque de la recherche de l'intersubjectivité, le lecteur modèle ou lecteur implicite, qui est certes une idée de lecteur, pas un lecteur qui existe réellement, a cependant le mérite de représenter tout de même un autre, une subjectivité extérieure à soi. Ainsi, lorsque l'auteur écrit, il a en tête autrui. Je cite donc Vincent Jouve dans son ouvrage sur la lecture. Comprendre une œuvre ne peut dès lors se réduire à en dégager la structure ou à la rattacher à son auteur. C'est la relation mutuelle entre écrivain et lecteur qu'il faut analyser. Donc l'hérographie, elle est écrite par un autre être humain, par un autrui dont on sait qu'il partage avec nous un certain nombre de caractéristiques, dont celle de sentir et de ressentir, dont celle de pouvoir désirer, et enfin celle d'avoir une expérience de la vie sexuelle, donc fatalement différente de la nôtre, de la mienne en tant que lecteur. Donc l'aller-retour de régrédience entre l'auteur et le lecteur donne à sentir une présence dans le livre, même si celle-ci n'est pas écrite, même si le livre n'est pas écrit au je, mais à la troisième personne. Je cite là-dessus Belinda Cannon dans L'écriture du désir. Au-delà de ses mots et de son sens, un roman donne le sentiment d'une conscience vivante, diffuse, mais bien présente dans les pages d'où elle naît, d'où elle sourd, et par sa subtilité, son accomplissement et sa hauteur de vue, cette conscience nous aide à connaître, à penser et à sentir. Fin de citation. Donc c'est aussi parce que l'hérographie vient d'un autrui que je peux en faire un réceptacle à fantasme, en fait. Parce que hors de moi, je vois beaucoup plus clairement ce qui m'excite ou ce qui m'enthousiasme. La différence, aussi bien que la concordance des émotions, des désirs, des cris, fait en sorte que le sentiment de partage est exacerbé. Donc je cite encore Belinda Cannon là-dessus. L'expérience de la lecture, comme celle de l'écriture, est celle d'une rencontre vive. Écrivant, je m'abouche au monde, je l'étreins, je me laisse étreindre, je chante. Lisant, je rencontre une pensée, une vision, j'ai l'intuition d'un autre être, entre parenthèses, celui de cette entité construite par chaque roman, l'écrivain. J'ai l'illusion fructueuse de présence, les personnages. De cette rencontre naissent connaissances, plaisirs et émotions. Fin de citation. Donc cette présence de l'autre dans le texte peut aller très loin dans le désir de connaître l'autre, de le rencontrer, de le toucher même peut-être dans sa chair, à tel point que Marguerite Duras décrit une expérience qu'elle fait de l'érotisation de l'auteur par le simple fait qu'il est un auteur. Donc c'est dans, excusez-moi, c'est dans La vie matérielle, un tout petit texte qui s'appelle Le corps des écrivains, dont voici un court extrait. Le corps des écrivains participe de leurs écrits. Les écrivains provoquent la sexualité à leur endroit, comme les princes et les gens de pouvoir. C'est comme s'ils avaient couché avec notre tête, pénétré notre tête en même temps que notre corps. Ce sont des objets sexuels par expérience. Il m'est arrivé, par excellence, pardon. Il m'est arrivé très jeune d'être attiré par des hommes âgés parce qu'ils étaient des écrivains. Donc c'est assez intéressant, n'est-ce pas, de voir que le langage aussi donc peut avoir cette fonction de pénétration. Est-ce lié à la régrédience? Sans doute. On peut aussi peut-être trouver une explication dans ce que le philologue et linguiste Ivan Fonagy a appelé l'origine pulsionnelle du langage, théorie selon laquelle le développement du langage chez l'être humain, en comparaison avec d'autres animaux qui ont aussi des formes de langage, viendrait de notre inclination à complexifier les pulsions sexuelles. Mais c'était tout un autre sujet que j'ai pas l'occasion de développer ici. Si ça vous intéresse, ce livre s'appelle La vive voix de Ivan Fonagy et c'est passionnant. Donc il faut bien donc cependant reconnaître que le livre fait lien entre les subjectivités, donc en hérographie d'autant plus puisque le sujet décrit est un des moments de l'expérience humaine où la subjectivité est la plus exacerbée, où elle s'exprime le plus. Alors l'autre intersubjectivité qui existe dans la lecture, c'est l'intersubjectivité entre les lecteurs. Donc ça s'arrête pas à l'échange auteur-lecteur, bientôt ça devient une intersubjectivité lecteur-lecteur parce que l'hérographie fait lien entre les corps, parce qu'elle décrit une expérience dont tous les individus ont une connaissance empirique. Je cite Roland Barthes dans Fragments d'un discours amoureux. Une longue chaîne d'équivalences lie tous les amoureux du monde. Dans la théorie de la littérature, la projection du lecteur dans le personnage aujourd'hui n'a plus cours. Elle est néanmoins le registre propre des lectures imaginaires. Lisant un roman d'amour, c'est peu dire que je me projette. Je colle à l'image de l'amoureux, de l'amoureuse, enfermée avec cette image dans la clôture même du livre. Ainsi, donc, selon cette théorie, en lisant les mêmes livres, nous faisons tous la même expérience, ce qui fait des lecteurs une communauté liée par l'émoi, comme le seraient des individus ayant vécu le même événement sensationnel, par exemple, sensationnel au sens de sensation. Donc, Barthes insiste même en considérant le livre comme une coopérative, donc je cite à nouveau, « Le livre, idéalement, serait une coopérative aux lecteurs, aux amoureux réunis. » Fin de citation. Donc on voit bien comment l'hérographie devient alors un lien, non plus seulement entre soi-même et sa propre expérience, mais entre les individus aussi. Ainsi, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est aussi tiré de Monsieur d'Emma Baker, et qui parle de ce lien entre les lecteurs. Début de citation. « Alors que je me confondais en gênement embarrassé, j'ai levé mon visage et vu dans le sien tant de sereine fascination que le choc m'a rabattu en arrière. » Cet homme, qui adorait les mêmes livres que moi, regardait ma chatte aussi pieusement qu'il aurait lu un Bataille sur papier velin, avec ses yeux qui connaissaient la courbure lascive des mots nymphe, con, fente, bouton. Fin de citation. Donc on voit bien que le livre est présent dans l'expérience comme porte ouverte vers l'autre. Ici, c'est pour une question de goût esthétique. Le fait que Monsieur et Ellie, donc le personnage principal de ce livre, aiment les mêmes livres, ça suffit pour qu'elle accède à la chair de l'autre, en fait. Quant à Emma Bovary, donc c'est par les livres qu'elle se met en relation avec Léon, qui est le deuxième amant. Je cite ici Kierkegaard dans le journal du séducteur. Un moyen très utile pour se mettre en rapport avec une jeune fille, c'est de lui prêter des livres. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi les livres ont-ils cette telle charge érotique? Est-ce que c'est seulement grâce à l'intersubjectivité qu'ils supposent? Alors, pour répondre à ça, j'aimerais maintenant évoquer la théorie de l'érotisme de Lou Andreas Salomé. Qui a un texte assez méconnu et qui est une femme qui a écrit sur l'érotisme assez tôt, parce que ce texte est paru en 1910 dans la revue Die Gesellschaft, qui veut dire la société, et c'est un texte qui fait la part belle à la connaissance de soi offerte par l'expérience érotique. Alors bien évidemment, Lou Andreas Salomé n'est pas une phénoménologue puisque elle arrive avant Husserl, mais c'est assez intéressant dans ce contexte de voir ce qu'elle dit. Donc elle prescrit, elle, d'oser réfléchir pleinement à nos pratiques afin de les comprendre. Donc je cite « En ce qui concerne la base de l'érotisme, la sexualité, cela signifie qu'il faut pénétrer de plus en plus profondément en elle sous son aspect physiologique. » La sexualité, forme de besoin physique, tout comme la faim, la soif ou quelque autre manifestation de la vie de notre corps, ne devient accessible à la compréhension de ce qui révèle aussi de son essence et de son action que sur une telle base. » Fin de citation. Donc alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour accéder à cette base en question dont parle Lou Andreas Salomé afin d'atteindre le sens profond de l'érotisme, pour reprendre son terme? Alors ma proposition, ou la piste que j'aimerais suivre sur ce point, serait d'avancer que c'est justement par la lecture d'érographie que l'on peut y arriver. Donc l'érotisme, c'est au croisement du rut et de la pensée, de la bête et de la tête, on pourrait dire. Comme il y a peu d'essais sur le sujet, ce que déplore d'ailleurs Jean-Luc Marion au début de son ouvrage, mais aussi Barthes, et on a vu que la théorie de l'érotisme en phénoménologie est en fait assez récente. Donc comme il y a peu d'essais sur le sujet, il faut donc se tourner vers la littérature érotique qui, elle, est florissante. Donc là, je ne peux pas résister à vous citer un passage de Barthes qui est particulièrement savoureux, qui est issu des fragments inédits du discours amoureux. Je cite « Et pourtant revient toujours la question, mais enfin, qu'est-ce que c'est l'amour? Si vous êtes diabétique, ou croyez l'être, vous achetez fatalement un que sais-je sur le diabète. Si vous êtes amoureux, vous voulez des livres qui expliquent l'amour. Tous les romans d'amour, comme autant de que sais-je sur l'amour. » Donc voilà, c'est assez amusant, mais je pense qu'il y a derrière l'humour, il y a quelque chose d'assez vrai. C'est que pour moi, la lecture, elle est un outil de promotion des fantasmes, donc nous l'avons vu, mais elle est aussi un espace d'exercice du jugement érotique. En lisant un passage, je peux deviner si ceci m'excite ou pas, si la pratique qui est décrite là devant moi m'attire ou si elle m'inspire du dégoût. Et surtout, cet autre qui a écrit cela, qui a fantasmé cela, et ces autres qui le lisent aussi, je découvre ainsi leur désir potentiel, leur sexualité, leurs érotismes. Donc ainsi le lecteur, il est en pleine introspection de ses inclinations et c'est ainsi qu'il peut injecter un peu de spiritualité dans le domaine bestial, ce qui selon Lou Andrea Salomé lui permet d'arriver à un érotisme bienheureux. Donc je cite Lou Andrea Salomé, c'est l'extrême degré de l'amour spiritualisé qui devient l'occasion de libérer en nous-mêmes, en lui donnant vie, ce qui n'était pas prévu dans le programme de notre propre évolution. Donc par ailleurs, Lou Andrea Salomé, elle est bien consciente qu'il s'agit dans l'érotisme avant tout d'une affaire de langage. Donc je cite à nouveau, dans le monde humain, on ne s'en tient pas toujours à l'humour de la chose devant ces oscillations de la brutalité au débordement affectif. Une intelligence confuse de ces contradictions provoque aussi cette pudeur spontanée, née d'un instinct profond, que des êtres très jeunes et ingénus peuvent ressentir à l'égard des rapports sexuels. Pudeur qui n'est due ni à leur inexpérience, ni à des sermons moralisateurs bien intentionnés, mais au fait que leur élan d'amour visait la totalité de leur moi et que le passage de là à un acte physiologique et partiel les trouble, si bien qu'il semble que peu de temps auparavant, encore captifs du langage maladroit de leur grand désir, ils étaient presque plus proches l'un de l'autre, plus totalement, plus directement. Donc on retrouve ici encore une fois l'idée de l'échec de l'érotisme pour atteindre l'autre. Mais on voit aussi que la solution qu'elle offre, c'est de passer par le langage. Donc il s'agit bien d'une histoire de langage. Donc on pourrait ainsi se demander si la lecture est plus érotique que l'acte. Et on retrouve ce que je disais en première partie. L'érographie, elle offre un éros parfait qui n'est pas soumis aux aléas de la réalité. Par ailleurs, pardon, Lou Andrea Salomé, comme d'autres penseurs allemands de l'époque, Rilke, Walter Benjamin, etc., elle développe toute une théorie de l'érotisme en tant qu'art. Donc la littérature, qui est un art au même titre que les autres, pourrait donc avoir une portée érotique elle-même, dont on ferait l'expérience par la lecture en fait. Donc vivre l'érotisme, ça pourrait être donc vivre en livre, et c'est cela maintenant que je voudrais questionner dans ma quatrième et dernière partie, que j'ai intitulée « Vivre en texte ». Alors, le livre crée l'envie d'autrui, car il reproduit ce qui devrait se passer dans la rencontre érotique réussie, c'est-à-dire celle où l'autre n'est ni moyen, ni fin de la jouissance, mais ouverture, accueil. Donc, si l'on veut voir l'érographie comme étant l'expression d'une sexualité, le sujet auteur et le sujet lecteur se rencontrent toujours, en fait, ouverts chacun dans les désirs de l'autre. Donc, voilà. Excusez-moi, je me suis perdue. Voilà. Les livres d'érographie qui traversent les siècles, en fait, par un effet d'entraînement, ça devient des sortes de manuels de pratiques possibles. Donc ainsi, les règles, par exemple, du sadomasochisme ont été édictées par Sacher Masoch, et on a appelé les jeunes filles érotisées très jeunes des Lolitas. Donc tout ça vient des livres. Donc Vincent Jouve, notre théoricien de la lecture, il exprime cette constante de la littérature en général de cristalliser des expériences communes. Je cite, si l'on admet le principe que les désirs refoulés sont un très petit nombre et communs à tous les individus, on peut expliquer l'attrait du lecteur pour la fiction par la reconnaissance de grandes structures fantasmatiques. On rechercherait toujours les mêmes choses dans l'œuvre d'imagination. Fin de citation. Donc les livres érotiques qui survivent à la réimpression, parce qu'il faut savoir que l'érographie, très souvent, c'est des livres qui ont une très courte durée de vie, parce qu'ils sont rarement réimprimés, ils sont évidemment pas très bien représentés dans la société, donc en général, ils disparaissent très peu de temps après avoir été publiés. Mais il y a quelques exceptions, et pour moi, ces exceptions, c'est parce que c'est ceux dont on fera des modèles plus tard. Donc par exemple, Histoire d'eau, Lady Chatterley, Justine, La Vénus à la fourrure, L'histoire de l'œil. En fait, ce que ces livres ont en commun, c'est qu'ils formulent des grandes tendances de désir et de fantasme dans lesquelles les sujets reconnaissent leur propre désir et celui des sujets qui les entourent. Donc, par exemple, la capacité d'abandon de O dans Histoire d'eau, le désir d'émancipation de Vanda dans La Vénus à la fourrure, le besoin de violence de Justine de Sade, l'envie de transgression dans Histoire de l'œil, etc. Alors attention, en revanche, il ne s'agit pas de dire que lire des livres transgressifs, ça rend le lecteur violent ou perverti, car le lecteur est toujours libre devant le texte, hein, il ne s'agit pas de charme magique. Le lecteur reste toujours un sujet devant le texte, en fait, même s'il y a là un autrui qui peut l'influencer. Donc je cite à nouveau Vincent Jouve, « vivre un texte, pardon, ne consiste évidemment pas à confronter ses actes à ce qu'on a pu y lire, vivre avec ça, ce n'est pas devenir sadique, mais à transposer dans sa vie des formules empruntées à l'œuvre lue. » Donc ici, nous retrouvons un peu notre idée de catharsis améliorée, mais la lecture, elle peut aussi être chez le sujet tellement violente et tellement forte qu'elle peut pousser à l'action de manière très directe. Et il ne s'agit plus alors de catharsis, mais d'aliénation, en fait. C'est Vincent Jouve à nouveau qui décrit cela en ces termes. L'impact de la lecture sur l'existence du sujet est donc plus réel qu'on ne le croit. Il peut prendre des formes mineures, le souvenir de lecture nous donnant le courage de briser certains codes, mais aussi des formes extrêmes. On sait que Tristan et Iseut a modifié l'équilibre amoureux de plusieurs générations, que certaines âmes tourmentées du romantisme sont allées se suicider sur la tombe de Rousseau, que le Werther de Goethe a poussé des adolescents à se donner la mort et qu'un jeune russe a réellement commis les deux crimes fictifs de Raskolnikov. C'est bien la signification de l'œuvre, définie comme le passage du texte à la réalité, qui fait de la lecture une expérience concrète. Fin de citation. Bon, alors, heureusement, ces formes extrêmes que Vincent Jouve décrit sont plus rares que les formes mineures, on va dire, et je dirais même rarissimes de l'ordre du fait divers, parce que la réaction la plus partagée face à la lecture d'érographie, c'est l'expérimentation, la mise en ordre, la mise en mots de désirs parfois invisibles à la conscience même du lecteur, qui viendrait alors affleurer à la conscience par le fait de la lecture. Donc plus qu'un expédient de désordre, c'est l'ordre mental que la lecture permet en fait. Et c'est ce qu'Umberto Eco confirme lorsqu'il affirme ceci dans « Six promenades dans les bois du roman », donc je cite « En lisant des romans, nous fuyons l'angoisse qui nous saisit lorsque nous essayons de dire quelque chose de vrai sur le monde réel. Telle est la fonction thérapeutique de la narrativité et la raison pour laquelle les hommes, depuis l'aube de l'humanité, racontent des histoires. Ce qui est d'ailleurs la fonction des mythes, de point, donner forme au désordre de l'expérience. » Donc voilà, le roman érotique, il brise la solitude de l'acte érotique réel. Hein. Rappelons ce que dit Jean-Luc Marion du roman d'amour. Il dit, je cite, « Le roman parvient à rompre l'autisme de mes crises amoureuses parce qu'il les réinscrit dans une narrativité sociale, plurielle, publique. » Fin citation. Donc c'est un peu le soulagement infini d'une angoisse infinie, en fait. Au-delà de ça, la fiction en général nous aide à organiser l'expérience dans nos esprits, à voir plus clairement. Donc je cite Umberto Eco à nouveau. La fiction a la même fonction que le jeu, on l'a déjà dit, en jouant, l'enfant apprend à vivre parce qu'il simule des situations qu'il rencontrera en tant qu'adulte. Et nous, adultes, à travers la fiction narrative, nous exerçons notre capacité à ordonner l'expérience du présent comme du passé. Ainsi, donc même sans tomber dans l'extrémisme d'une lecture qui forcerait la main à commettre des crimes ou des exactions, on voit comment l'agir peut se développer en partant du livre. Donc là, je suis sûre que vous me voyez venir, mais je me vois maintenant amenée à convoquer la pensée de Ricoeur, que vous attendiez, j'en suis sûre, tous avec impatience. Ce que j'essaye de décrire, en fait, depuis le début de cette communication, c'est en réalité ce que Ricoeur a appelé la signification, donc en opposition avec le sens. Donc la signification, vous le savez, c'est le passage du sens dans le sujet, au point que le texte en vient à entrer en résonance avec l'expérience, avec la vie du lecteur, ou pour le dire avec les mots de Ricoeur dans « Du texte à l'action », donc essai d'herméneutique. C'est toujours quelqu'un qui reçoit, fait sien, s'approprie le sens. Mais il n'y a pas de court-circuit brutal entre l'analyse tout objective des structures de récit et l'appropriation du sens par des sujets. Entre les deux se déploie le monde du texte, le signifié de l'œuvre, à savoir, dans le cadre du texte-récit, le monde des trajets possibles de l'action réelle. Si le sujet est appelé à se comprendre devant le texte, c'est dans la mesure où celui-ci n'est pas fermé sur lui-même, mais ouvert sur le monde qu'il redécrit et refait. Donc là encore, on voit que c'est l'ouverture du texte, le fait qu'il soit sujet à l'interprétation qui crée l'occasion d'introspection et l'intersubjectivité, car cette interprétabilité, en fait, force le lecteur à s'approprier les expériences décrites, à se demander si cela est crédible, s'il ferait la même chose, s'il ressentirait ce qui est décrit, etc. Donc c'est ce questionnement, en fait, basé sur des expériences réelles qui rend la lecture d'hérographie éminemment introspective. Ricoeur, d'ailleurs, il met l'accent sur le rôle de l'imagination là-dedans. Donc je cite encore un petit passage. Nous l'avons dit, un récit, un conte, un poème ne sont pas sans référent. Mais ce référent est en rupture avec celui du langage quotidien. Par la fiction, par la poésie, de nouvelles possibilités d'être au monde sont ouvertes par la réalité quotidienne. Fiction et poésie visent l'être, non plus dans sa modalité de l'être donné, mais sous la modalité du pouvoir-être. Par là même, la réalité quotidienne est métamorphosée à la faveur de ce qu'on pourrait appeler les variations imaginatives que la littérature opère sur le réel. Alors c'est justement parce que l'érographie est un lieu de liberté plus vaste que le réel qu'elle permet de passer à l'acte ensuite. Donc je m'explique. Par le mécanisme d'identification du lecteur, par le fait que les récits hiérographiques soient souvent rédigés à la première personne du singulier, le lecteur dit donc « je » dans sa tête quand il lit, donc ça fait référence à lui-même, et par une simple assimilation grammaticale, l'identification au personnage est renforcée. L'impression est celle d'une expérimentation donc à la première personne, reçue comme une expérience même. Donc en lisant, nous expérimentons une version extrême de nos désirs, et lorsque vient le moment de les mettre en pratique, cette expérimentation aura déjà permis de faire le tri dans nos émotions et nos désirs. Donc pour clore cette partie, j'aimerais vous lire un extrait tiré de « Eros mécanique » de Pierre Bourjade, qui est un petit roman hérographique. Ce passage, en fait, pourrait être l'illustration de tout ce que nous avons abordé lors de ces quatre parties, la relation charnelle entre le livre et le corps, l'inspiration mutuelle que littérature et érotisme se donnent l'un l'autre, le désir d'agir qui est impulsé par le désir de lire. Donc, je vous lis ce petit passage. « J'aimais lire. Je me voyais attachant cette femme à un fauteuil, mais la tête en bas, les bras ficelés au pied du fauteuil, la tête reposant par terre sur un petit coussin, cuisses et cul largement ouverts à hauteur de vue, ouverts comme un livre. Je posais ensuite un vrai livre ouvert sur ce livre-là et je me mettais à lire. En déplaçant légèrement le livre, je voyais apparaître la fente aux lèvres collées ou décollées et, en me penchant, je pouvais venir sentir son odeur sauvage qui se mêlait à l'enivrante odeur des livres neufs, à l'odeur des vergers ou des japons, à l'odeur des cartonnages et des maroquins, à l'odeur de colle des brochages. » Fin de citation. Donc l'expérience de lecture, elle devient une expérience sensorielle, tout comme l'expérience érotique devient littéraire dans ce cas-là. Alors, pour conclure rapidement, le monde et les livres ne correspondent pas, c'est l'erreur d'Emma Bovary de le croire. En revanche, ils ouvrent à un autre monde possible qui n'est ni celui qui est donné à la conscience, au ressenti, au phénomène, ni celui exact du livre, mais un monde autre, un monde ouvert, un espace tiers d'émancipation et de possible, un espace érotique de possibilités d'échange et de rencontre de l'autre. Donc dans une partie inédite des fragments, Barthes il exprime l'importance des livres dans l'expérience amoureuse et l'expérience de désir. Je cite « L'amour vient du livre, l'amour est d'abord écrit, je ne fais que le réécrire à l'infini. Je ne saurais qui désirer, je ne saurais quoi faire sans livre pour me guider. Je rencontre toujours un livre qui donne corps, langage, anecdote et moi à mon désir. » Fin de citation. Donc l'ancrage du sentiment amoureux, de la forme humaine du désir dans le langage, elle serait à explorer plus avant pour peaufiner ces questions. Quant à l'erreur d'Emma Bovary, elle est évitable sur la base d'une telle connaissance. Donc l'exemple que je veux en donner pour terminer, c'est celui d'Anaïs Nin, qui découvre donc l'érotisme avec Henry Miller, un écrivain donc, étant elle-même écrivain. On peut supposer donc que leur rapport au livre est plus fréquent et plus entier que les autres sujets. Donc voilà ce qu'elle relate dans son journal. L'autre soir, nous avons évoqué le piège de la littérature qui élimine tout ce qui n'est pas essentiel pour nous donner une sorte de concentré de vie. Je me suis écriée presque indignée. C'est une tromperie et c'est à l'origine de bien des déceptions. On lit des livres et on s'attend à ce que la vie soit aussi pleine d'intérêt et d'intensité. Et naturellement, elle ne l'est pas. Il y a des tas de moments ennuyeux entre eux. Et eux aussi font partie de la vie. Toi, dans tes écrits, tu m'as joué le même tour. Je m'attendais à ce que toutes nos conversations soient enflammées, graves. Je t'imaginais toujours saoul, toujours délirant. Et puis, nous avons vécu ensemble pendant quelques jours et nous sommes tombés dans un rythme de vie naturel, tranquille, profond. Donc là, Henry Miller lui répond, lui demande « Es-tu déçu ?» Et Anaïs Nin répond « C'est très différent de ce à quoi je m'étais attendue, mais je suis satisfaite. » Donc voilà, c'est ce « mais je suis satisfaite » qui montre le cœur de la solution au problème. Avoir conscience, contrairement à Emma Bovary, que le monde et les livres ne coïncident pas, mais qu'ils peuvent en revanche ouvrir à toute une autre gamme de perceptions, jusque-là non envisagées. Même pour une écrivaine, l'écriture ne suffit pas pour vivre l'érotisme ni la lecture. Il faut aussi recevoir le sang de la littérature pour alimenter l'expérience, en fait, pour l'habiter, pour la vivre pleinement. Gaëtan Brulotte, donc, à la fin de son ouvrage, il énonce une sentence qui pourrait être la clé de ce que nous cherchons aujourd'hui. Donc, je cite, « L'érographe aurait bien compris qu'en étant au plus près de la vie, on pouvait transformer la littérature et qu'en changeant le livre, on pouvait aussi changer la vie. Vivra bien qui lira le dernier. » Fin de citation. Donc, la fin du conte des Mille et Une Nuits est représentative de cette idée et je voudrais terminer là-dessus. Si Scheherazade échappe à la sentence du sultan à la fin des Mille et Une Nuits, ce n'est pas tant parce qu'elle prolonge sa vie au moyen... C'est plutôt parce que la fiction permet au sultan d'accéder à l'altérité de Scheherazade, de la comprendre enfin comme sujet et non comme objet. Donc les psychologues appellent ça un processus de bisexualité psychique. Moi, j'y vois surtout le pouvoir de la fiction de modifier profondément nos comportements. Et c'est ainsi que l'érographie, au lieu de nous éloigner de l'expérience, au lieu de présenter un écran entre moi et le monde, fait en réalité une passerelle vers l'expérience en rendant le concept d'intersubjectivité palpable, en permettant l'expérimentation sous forme d'introspection et en étant un lieu de découverte de ses propres fantasmes. Donc c'est ainsi que le lecteur passe sans contrainte du texte au sexe. Voilà, merci beaucoup.
You are now unmuted. Merci, merci beaucoup Camille, c'était vraiment passionnant de t'écouter et de découvrir toute cette exploration la mise en perspective en fait de l'écriture, de la lecture et sa fonction à la fois d'enrichissement et d'ouverture de nouvelles perspectives et en même temps j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que tu montres bien les limites et la non-coextensivité de la vie et de l'écriture, et le fait que voilà, oui, l'irréductible, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a forcément aussi une dimension de... Il ne faut pas, comme t'as bien insisté sur le fait que il y a toujours un risque de confusion, enfin, à certains égards aussi, qui peut être problématique. Merci beaucoup. Donc, on va prendre un petit peu de temps pour des échanges. Il est 15h25. Donc on est tout à fait dans les temps, c'est parfait. Donc j'ouvre la discussion.
Je vais couper la caméra pour faciliter la prise de parole.
Oui, peut-être. Comme ça tu peux rester en micro ouvert et moi aussi en même temps que voilà. Les personnes qui prendront la parole. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester.
Oui, j'avais quelques questions à poser à Camille.
Oui.
Oui, Aurélien.
Vous m'entendez bien? Oui, ça va.
Oui, ça va.
Merci beaucoup oui, pour cet exposé très riche. C'est très, très, très agréable à écouter et puis très, très, très fourni. Je voulais te revenir sur deux petites questions qui m'étaient venues pendant que je t'écoutais. J'ai peut-être mal entendu. Je voudrais que tu reviennes un petit peu sur ce que tu appelles, ce que tu définis comme l'érographie. Parce que finalement, tu en parles comme finalement une littérature de l'éros parfait ou sans ratage. Et je voulais te demander s'il n'y a pas justement quand même des textes d'érographie où il y a des ratages, voire même des choses encore plus graves qui arrivent. Bon, on peut penser peut-être à des romans, ou alors tu as une entente plus restreinte de l'érographie. Et si c'est le cas, si c'est c'est toujours un éros de plénitude et parfait, là on verrait vraiment trancher par exemple par rapport à l'expérience érotique telle qu'elle est décrite par Henri par exemple et par le pessimisme que tu as souligné auquel donc Henri renvoyait parce qu'en fait chez Henri l'éros il est quand même voué justement à l'échec, il est essentiellement raté quoi. Et donc à ce moment-là je me demandais si on était dans cette optique très pessimiste de l'expérience érotique, il n'y avait pas justement un hiatus avec l'érographie qui serait dans la perfection. Et donc peut-être, à la lecture de cette érographie, il y aurait peut-être aussi une forme... ça pourrait susciter, tu vois, une sorte d'inhibition. Que on pourrait en fait se rendre compte que, en essayant d'articuler certains fantasmes dans le réel, on ne soit pas à la hauteur, ou il y ait des ratages, justement. Enfin, tu vois, est-ce que ça pourrait pas... Je comprends bien ce que tu soulignes, tu mets en avant le côté d'alimentation de l'érotisme, de découverte de ses fantasmes, du tri des désirs, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi des effets plus négatifs d'inhibition justement vis-à-vis des convenus qui peuvent se tramer dans le réel quoi.
Oui, effectivement, c'est très intéressant comme question, merci. Alors, pour revenir sur l'érographie, en fait, Gaëtan Boulot utilise ce terme pour parler de toute littérature qui mettra en scène la sexualité, mais c'est vrai que, il parlerait plutôt de sexualité, comment dire, qui est là pour exciter le lecteur, donc pas de côté noir. Notamment bah, des viols ou de tout ce qu'on pourrait, qui existe aussi dans la littérature ou des ratages. Mais même si les ratages sont représentés, j'aurais presque envie de dire que comment dire, la fonction est peut-être la même parce que ça donnerait peut-être envie d'aller voir si on ne peut pas réussir à son tour. Plutôt que rater, mais je sais pas, je réfléchis en parlant. Et quand est-ce que tu soulignes sur le fait que effectivement, ça représente une littérature qui représente globalement que des, on va dire, des personnages qui sont inépuisables, qui atteignent l'autre à chaque coup, qui n'ont pas de problème d'orgasme, etc. C'est vrai que ça pourrait être, comme tu dis, un facteur d'inhibition. D'ailleurs, il y a un roman qui est paru il n'y a pas longtemps de Nina Léger qui s'appelle Mise en pièces et qui présente une héroïne qui est en constante recherche d'un accord parfait avec des hommes et qui ne veut plus lire de littérature érotique justement à cause de cette répétition de perfection et qu'elle ne retrouve pas dans la vie en fait. Donc il y a aussi cet effet, c'est vrai. Mais peut-être que, enfin, je connais très peu de gens, à part les chercheurs comme moi, qui lisent de l'érographie à répétition et à longueur de journée. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que c'est une littérature de genre, ou qu'on peut dire mineure, enfin avec des gros guillemets. C'est parce que effectivement, je pense pas qu'elle soit faite pour être lue à répétition, parce que ça, effectivement. Répète des clichés et des ressorts qui sont souvent toujours les mêmes. C'est pas très varié, hein, faut pas se leurrer, hein, même si la sexualité est très riche, la littérature érotique, l'érographie, elle n'est pas très très variée. Donc je pense que, ouais, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, c'est vrai, mais de manière, comment dire? La lecture d'érographie dans la vie des individus, elle est plutôt ponctuelle et je pense que c'est ça qui fait qu'elle peut agir. Si effectivement l'excès est contre-productif, ouais. Effectivement.
Je te remercie. Merci. Mais j'ai une autre remarque, mais je laisse les autres poser leurs questions avant. Si on a le temps, je reposerai plus tard.
Y a-t-il d'autres questions?
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? N'hésitez pas éventuellement, si vous n'osez pas prendre la parole en direct, à poser des questions sur le chat et on peut les répercuter si c'est plus simple pour les uns ou les autres.
S'il n'y a pas de questions, je peux poser la
Francisco
mienne.
Para qui est en train, mais oui, vas-y Aurélien, et puis ensuite je verrai si quelqu'un se manifeste sur le chat.
Alors, je continue juste une petite aussi, une autre question sur le fait, donc tu l'as dit, c'est ton exposé autour du fait, en fait, de l'effet du langage qui érotise la chair. Et donc ça, évidemment, très, très intéressant. C'est vrai que tu axes évidemment la question de l'érotisation de la chair, enfin donc de la chair vivante du lecteur, on pourrait dire, à partir de la signification et des fantasmes qui sont en fait qui sont dans le livre Hérographe. Et en fait, je voulais te demander, est-ce que tu penses aussi on pourrait aussi penser que le texte érotise la chair, pas seulement par sa signification, mais aussi par sa texture sonore. C'est-à-dire que peut-être que justement dans la poésie érotique, il y a aussi toute une mélodie, on le sait, des mots. Et ça exprime sans doute aussi des sentiments, des élans, des valeurs peut-être, et que justement cette matière sonore, elle a une incidence, je veux dire, sur notre chair vivante aussi. Est-ce que tu irais dans ce sens aussi?
Oui, tout à fait. Là, j'ai pas eu le temps de développer cet aspect, mais j'ai cité le livre d'Ivan Fonagy, La vive voix, qui qui part un peu de cette théorie selon laquelle le langage serait donc résultant de pulsions sexuelles chez l'homme, en fait. Et à partir de là, il y a toute une poésie érotique qui est basée sur le son et le langage plus que sur la signification. Je pense notamment à... Son nom m'échappe à chaque fois... Gerasim Luca, voilà, qui a écrit tout un poème où il utilise des verbes qui n'ont rien à voir avec l'érotisme et il décrit tout ce qu'il va faire à une personne, à un interlocuteur qu'on devine être une femme. Et c'est extrêmement érotique malgré le fait qu'il n'y ait pas un seul terme qui soit comment dire, affilié à Eros ordinairement. Et c'est assez fascinant. Donc il y a aussi quelque chose, oui, de l'ordre du son, tout simplement du langage. Il existe notamment maintenant de la pornographie audio sur Internet qu'on peut trouver et qui est aussi basée plus sur des mots et des chuchotements, pas forcément non plus liés à un sens sexuel qu'autre chose. Donc oui, effectivement, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là.
D'accord, je te remercie. Merci.
Alors, il y a une question. Est-ce que je suis. Ouais, je suis en... Est-ce qu'il y a une question de Francisco Parra? Peut-être qu'il ne peut pas nous mettre son micro. Donc, je me permets de la lire pour tout le monde, même si vous l'avez sous les yeux, mais pour l'enregistrement. Donc, la question, c'est. Ça concerne les lectures érotiques de certains textes mystiques ou religieux, comme Thérèse d'Avila ou le Cantique des Cantiques. Donc qu'est-ce que tu en penses, Camille? Et c'est vrai que c'est une question que j'avais aussi en tête, en fait, la question de l'union à Dieu, de l'union mystique, finalement, qui se passe de langage en réalité parfois, et qui peut être intensifiée justement. Est-ce que c'est l'enrichissement ou l'intensification par la vision spirituelle, indépendamment même de tout langage?
Effectivement, la transsubstantiation, je crois, de Thérèse d'Avila, qui est l'expérience qu'elle fait de recevoir en fait Dieu, et c'est un passage qui, quand on le lit, il est extrêmement érotique, et c'est comme si elle décrivait un orgasme, et pourtant effectivement c'est axé, comme le dit Francisco, sur l'absence. Mais cela dit, quand on le Cantique des Cantiques aussi, c'est pareil, en fait c'est deux amants qui ne se rencontrent presque jamais et qui parlent énormément de désir. Mais dans la mystique, ce qui est très intéressant de noter, c'est que Dieu est censé être le verbe, en fait. Et c'est assez intéressant de ce point de vue-là, de voir que c'est comme si les mystiques remplaçaient, je parle de Thérèse d'Avila ou du Cantique des Cantiques, comme s'ils remplaçaient l'expérience érotique effective par le verbe, le langage. Donc à nouveau, on est dans une relation érotique au langage, et c'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup. Après, évidemment, je ne me suis pas penchée très précisément sur ces textes-là, donc c'est tout ce que je peux en dire pour le moment, mais ça me semble intéressant.
Mmh, d'accord. Bon, ça, en tout cas, c'est vrai que c'est une question d'ouverture. Enfin, c'est très intéressant, le rapport à l'absence, comment l'absence suscite finalement l'éros ou le désir, et l'imaginaire aussi.
Les absences sont souvent décrites aussi dans les livres érographiques comme des moments d'érotisation extrême. J'ai cité Monsieur d'Emma Baker, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que la première partie du livre, c'est le récit de ses aventures avec cet homme-là dont elle parle. Et la deuxième partie du livre, c'est l'absence de cet homme qui soudainement ne répond plus à ses messages. Enfin, bon, c'est très prosaïque, mais cette absence, elle est transformée en quelque chose d'extrêmement érotique et qui donne lieu après, à la fin, au livre, en fait. Elle écrit ce livre parce que cet homme est absent. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on passe de l'un à l'autre comme ça. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Je vois que Philippe Fontaine est à nouveau avec nous. Est-ce que tu as une question, Philippe? On t'entend pas, en fait. Peut-être que tu es resté en muet. Je ne sais pas si tu peux mettre ton micro. Est-ce que tu as mis ton micro? C'est possible? Difficile, t'arrives pas à voir où c'est. Sinon, je ne sais pas si tu veux écrire directement sur la conversation, éventuellement. Ah, donc Pauline, entre-temps, je te laisse chercher éventuellement Philippe. Il y a Pauline Doucet qui a une question à poser à Camille. Vous voulez prendre ouvrir votre micro, Pauline, ou vous préférez écrire?
Oui, vous m'entendez?
Très
Oui.
bien.
Oui, bonjour. Bonjour Camille, merci pour ta présentation.
Je vous en prie.
Tu évoquais donc, tu précisais avoir une bonne connaissance des différents ouvrages hérographiques dans le cadre de tes recherches. Et comme tu l'as présenté dans ton exposé, tu expliquais que tous ces livres hiérographiques en fait constituaient une espèce de communauté d'expérience et de réseau d'intersubjectivité entre les lecteurs, si j'ai bien
Oui.
compris. Je mettais ces commentaires là de ta part en relation avec ce que disait Nathalie dans son introduction, en parlant de l'expérience érotique qui bien souvent qui peut-être n'est pas si universel que ça. Enfin, je me demandais en fait sur la communauté, est-ce que la communauté ne serait pas exclusivement masculine? Si les schémas, si, est-ce que tu as pu observer, pardon, dans tes lectures, des variations dans les schémas érotiques qui alimentent notre imaginaire
Oui.
De l'auteur ou de l'autrice
Oui, alors ce qui est très intéressant de constater sur ce sujet, c'est qu'il y a eu un changement de paradigme très important dans les dernières années. C'est pour ça que ma thèse commence d'ailleurs en 1950 et très précisément en 1952, qui est l'année de parution de Histoire d'eau. Parce qu'Histoire d'eau est en fait le premier livre érotique écrit, bon, certes sous pseudonyme, mais sous un pseudonyme féminin par une femme. Quand on pense à Anaïs Nin qui écrit dans les années 30, en fait, elle publie son livre dans les années 70. Donc voilà. Et avant Pauline Réage et Histoire d'eau, la littérature, effectivement, était érotique, était majoritairement écrite par des hommes et majoritairement lue par des hommes. Mais il y a eu un changement progressif à partir des années 50. Le livre Emmanuel aussi en a fait partie. C'est que soudainement, la prise de parole a été presque, comment dire, a changé de camp. Et maintenant, de nos jours, il y a beaucoup plus de femmes, je dirais même majoritairement à 90% de femmes autrices d'hérographie que d'hommes. Et le lectorat est plutôt féminin maintenant. Donc il y a eu comme un renversement du public et même des écrivains, et ça change effectivement le ton des livres, où on est passé d'un érotisme qui était très axé sur la transgression sociale. On pense à Bataille Sade ou Pierre de Mandiargues, tous ces livres érotiques qui mettaient en scène des choses parfois assez violentes et comment dire, et pas très intéressé par le désir des femmes, on va dire, on est passé après à une hiérographie qui était beaucoup plus axée sur l'émancipation individuelle des personnages, et souvent des personnages féminins. Bon, pas que, évidemment, il y a toujours des hommes qui continuent d'écrire sur la littérature érotique, mais ils sont maintenant minoritaires, et ils ont quand même intégré cette nouvelle forme, on va dire, de discours qui consiste plutôt à parler des sensations des personnages et de ce qui les amène à telle ou telle pratique plutôt que de transgression pure et simple de codes sociaux en fait. Donc maintenant il y a de tout, mais c'est vrai que pendant un long moment l'hérographie présentait des fantasmes qui étaient globalement masculins. J'ose pas trop utiliser ce terme parce qu'évidemment ce sont des fantasmes qui peuvent aussi être partagés par les femmes, mais qui sont quand même globalement plutôt peu intéressés par le plaisir féminin en tout cas. Donc ça a changé, c'est en train de changer, et à voir ce que les prochaines années nous réservent. Donc À noter aussi, j'en ai pas parlé, mais la littérature érotique, l'érographie maintenant, elle est tout aussi hétérosexuelle qu'homosexuelle ou lesbienne. Avant, c'était typiquement hétérosexuel. Il y avait que quand l'homosexualité était évoquée, c'était pareil pour la transgression sociale et pas pour l'émancipation individuelle que ça implique. Voilà.
D'accord. Parce que je me demandais, par exemple, sans forcément rentrer dans les détails, mais est-ce que les pratiques sexuelles décrites par un auteur femme, par une autrice, est-ce qu'elles sont différentes, est-ce qu'elles diffèrent profondément des pratiques sexuelles telles de la littérature érographique plus traditionnelle,
les pratiques on va prendre un exemple parce que évidemment on va rester dans la littérature hétérosexuelle. Les pratiques décrites par les femmes, elles sont pas forcément différentes. Je parle de pratique en elle-même, c'est plutôt le discours qui est tenu autour d'elle qui est différent, en fait. Même si on voit émerger des choses qu'on ne voyait pas avant, comme des scènes de masturbation féminine, ça n'existait pas, ou alors seulement pour être dans le male gaze, comme on dit, avant. Mais aujourd'hui, oui, c'est plutôt le discours qui a changé plutôt que les pratiques, en fait, qui restent sensiblement les mêmes.
D'accord, merci.
Pas de
problème. Merci beaucoup. Je pense qu'on va, peut-être, c'est passionnant. Hein, on pourrait continuer à discuter pendant longtemps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets et de questions à aborder. Ce sera peut-être l'occasion d'une deuxième journée, du coup. Mais du coup, étant donné que le temps passe, je vais, si ça vous convient, je vais. Alors, est-ce que vous souhaitez une pause de 5 minutes? Une pause, voilà, pour casser un tout petit peu le rythme, ou bien est-ce que vous souhaitez qu'on continue? C'est une question difficile, hein, parce que finalement, personne n'ose répondre. Donc, en tout cas, je vais retirer l'enregistrement.